Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir, votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir, le retour enfin à la normale à la SNCF après un mouvement ce week-end qualifié d'illégal par ses dirigeants qui se sont engagés à rembourser en intégralité tous les billets non utilisés. À l'étranger, le Brexit en panne et puis des mouvements de contestation sociale à travers le monde qui prennent de l'ampleur, notamment au Liban comme au Chili, où le président à l'instant même vient de déclarer son pays officiellement en grève et annonce ce soir une troisième nuit de couvre-feu. Une constellation de champions, une pluie d'étoiles à travers Paris, avec à 20h24 le logo 2024. Enfin dévoilé pour nos Jeux Olympiques, une médaille d'or, bien sûr, avec une flamme à l'intérieur et le portrait d'une femme, d'une Marianne en surimpression. Le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, le multiple médaillé, trois fois médaillé d'or, sera notre invité dans un instant. La météo est un épisode plutôt pluvieux, d'importance même dans le sud de la France, sur l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, déjà en alerte orange ce soir. Alors plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur RTL.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Vers un retour enfin à la normale dans les heures qui viennent pour 98% des TER. C'est ce qu'on précise ce soir à la hauteur de la direction de la SNCF. Aucun souci pour l'instant pour les TGV et autres Ouigo. Seules les régions Champagne-Ardenne et Pays de la Loire sont encore impactées par le droit de retrait des cheminots et ce, après un accident de train aujourd'hui. Alors, droit de retrait ou grève dissimulée, voire grève sauvage pour le Premier ministre Édouard Philippe en personne. Mouvement illégal pour la direction. Avec vous, Arnaud Touche, on va parler ce soir de possibles sanctions individuelles comme de retenue sur salaire une fois que le tour du propriétaire aura été fait par le patronat et les syndicats.
Oui, même si la SNCF précise que pour le moment, eh bien, l'inspection du travail a été saisie que dans deux régions, le Bas-Rhin et le Centre-Val-de-Loire. Les syndicats expliquent qu'il y en a beaucoup plus que ça. Pour la direction, l'inspection ne se prononce pas sur la légitimité du droit de retrait, mais rappelle simplement les règles. Dans un courrier que nous avons pu consulter, une inspectrice du Bas-Rhin préconise ce soir de suspendre la conduite des trains par un seul agent à bord, jusqu'à ce que les risques liés au travail isolé des conducteurs soient correctement considérés. Eh bien, la direction de la SNCF explique qu'il s'agit là seulement d'une recommandation et non d'une injonction. Mais elle va proposer très rapidement un texte pour mieux informer les conducteurs en cas d'accident. Dans tous les cas, concernant la légitimité du droit de retrait, cela se règle bien souvent au prud'homme. Par exemple, la SNCF a gagné en 2017 face à des cheminots qui avaient exercé leur droit de retrait après deux agressions. A contrario, la direction avait perdu face à des agents qui avaient usé de leur droit de retrait. C'était en 2016, alors qu'ils jugeaient la ligne Dax-Hendaye assez dangereuse.
Merci pour toutes ces précisions. Arnaud Touche, service économique et social d'RTL. Quant aux billets non utilisés, la SNCF annonce bien sûr un remboursement intégral. Toujours dans le domaine social, demain, nouveau mardi de colère avant la grève, la grande grève du 5 décembre pour dénoncer la future réforme des retraites. Journée d'action pour les agriculteurs demain face à l'agribashing. Journée de contestation dans vos laboratoires d'analyse, les laboratoires d'analyse habituels qui protestent, eux, sur la charge de travail et certains prélèvements mal rémunérés. Puis, mardi noir de blocage sur les routes près des grands axes prévus cette fois par les gens du cirque. Un plan social, en revanche, approuvé ce midi à Belfort par les employés de General Electric. Après 4 mois de négociations, les conditions de départ ont enfin été acceptées après un vote à main levée à l'intérieur de l'usine. 307 emplois sauvés sur les 792 menacés et une obligation, Samuel Goschmidt, de serrer les boulons pour économiser au total 12 millions d'euros.
Oui, 4 mois de lutte et 13 jours de blocage de l'usine. Il y a beaucoup de matériel à dégager, dont 2 conteneurs de camions qui barrent la route principale.
On a opté après vote des salariés pour la fin du conflit. Donc on remballe, on laisse l'accès pour que justement les DS puissent aller en négociation pour continuer à faire évoluer le plan.
Il y a pas mal de choses à enlever.
Ça va tout seul, on est des professionnels.
Ils ont le cœur gros pour certains, mais ils se plient au résultat du vote. Un plébiscite pour le plan négocié depuis 4 mois, notamment par Philippe Petit-Collin de la CFE-CGC.
Oui, les derniers départs seront fin 2020. L'objectif, c'est d'avoir que des départs volontaires. Et l'objectif, c'est surtout d'avoir un projet industriel qui donne des priorités d'avenir pour le site. On est totalement soulagés car ça fait près de 4 mois que nous battons pour créer les leviers de négociation nécessaires. Maintenant, c'est qu'une première phase qui se termine, une deuxième phase très importante dans la négociation du projet industriel et des conditions de départ.
Ce sont 485 postes qui seront supprimés et il y aura en plus des gels de salaires et de primes pour économiser 12 millions d'euros par an sur le site.
En immersion pour RTL, Samuel Goldschmidt, correspondant Grand Est, évidemment, pour votre radio préférée.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
À 22h05, le début aujourd'hui à Toulouse du procès de celle que l'on a surnommée la démembreuse du Tarn. Patrick Tégéraud, une véritable Dexter au féminin.
Sophie Massala a une fine silhouette élégante dans un tailleur noir, chemise blanche à fines rayures bleues. Les cheveux roux mi-longs encadrent un visage émacié, osseux, profondément ridé. Elle fait 20 ans de plus que ses 55 ans. Elle répond simplement aux questions d'usage et ce sont les autres qui parlent d'elle. De son enfance à Valenciennes, dans une famille très modeste, du suicide de son père quand elle a 10 ans, elle découvre son corps. Aînée de 7 enfants, elle est la petite maman de ses jeunes frères et sœurs, leur mère étant trop occupée par ses amants. L'expert psychiatre parlera d'éléments traumatique majeur. Elle est immature, elle veut plaire, au point de ne pas hésiter à se prostituer pendant un an pour financer sa famille. Son mari est d'accord. Et quand elle tue Marilyn, employée modèle, c'est parce qu'elle lui reproche la même chose qu'à sa mère, une image falsifiée. Elle a nourri sa haine d'une foule de détails, pour nous anodins et souvent inventés. Autre preuve de son immaturité, son idée de découper, de faire disparaître le corps, comme si cela suffisait. Plus de corps, plus de crime, il ne s'est rien passé. Comme un enfant qui cache un jouet cassé.
Compte rendu d'audience, Patrick Tégéraud pour RTL. Et puis cette histoire de PV, cette jeune automobiliste nordiste dont la voiture a été confisquée il y a déjà 4 ans par la police, mais qui continue étonnamment de recevoir ses amendes à régler, Alice Moreno.
Oui, et tout ça à cause d'une petite anomalie. Le nom figurant sur la carte grise du véhicule n'aurait tout simplement pas été modifié. Dans le cadre de leurs interventions, les services de police sont amenés à rouler vite ou stationner dans des lieux interdits. Résultat, 6 000 euros d'amende au nom de l'ex-propriétaire du véhicule. Une pluie de PV qu'elle reçoit depuis 4 ans à son domicile et qui pèse lourdement sur ses finances, selon son avocate Audrey Yankelevitch.
Elle a un peu plus de 60 amendes et surtout la suspension de son permis de conduire. Ce qui lui pose de grandes difficultés. Vous voyez, elle a trouvé un travail tout près de chez elle parce qu'elle ne conduit plus. La semaine dernière, on lui a prélevé 2000 euros sur son compte bancaire, avis à tiers détenteur du Trésor public, en règlement de ses amendes. Elle a un salaire minimum. Une saisie de 2000 euros pour elle qui intervient comme ça, c'est catastrophique.
L'avocate assure que la voiture est utilisée par les services de police judiciaire de Versailles. Elle dit avoir effectué tous les recours possibles auprès des magistrats en charge de l'affectation de ce véhicule saisi. La prochaine étape, dit-elle, c'est l'assignation de l'État en justice.
Alice Moreno pour RTL. À 10 jours de la deadline du fameux Brexit, le Parlement britannique fait toujours de la résistance. Pas de vote à Westminster aujourd'hui encore. Le président de la Chambre des communes refuse même la tenue du scrutin. Et le Premier ministre Boris Johnson de s'employer encore et encore contre vents et marées pour en finir avec ces longues négociations d'ici, il l'espère, 10 jours date du Brexit programmé. La Syrie, Emmanuel Macron a souligné lors d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine l'importance de la prolongation du cessez-le-feu dans le nord-est de la Syrie, ainsi que d'une sortie de crise par des moyens diplomatiques, et ce, à la veille de la rencontre prévue entre président russe et président turc. Cette trêve doit expirer, on le rappelle, demain à 22h. Et côté américain, Donald Trump a précisé en fin de soirée qu'il restait un petit nombre de soldats américains en Syrie, alors que les troupes ont quitté le nord-est du pays comme prévu il y a quelques jours. 1000 soldats, on parle de 1000 soldats aujourd'hui déplacés sur un autre secteur syrien. La contestation partout dans le monde et 11 morts au Chili aujourd'hui après des manifestations monstres et violentes pour contester les inégalités ressenties dans leur pays et une vie de plus en plus chère. Le président Piñera a évoqué cet après-midi une véritable guerre et le couvre-feu a été décrété il y a quelques instants pour la troisième nuit consécutive. Aurélien Valarié pour RTL s'est rendu à l'ambassade du Chili à Paris en soirée et a retrouvé sur place le président des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, toujours très sensible à la cause sud-américaine.
C'est un message de solidarité avec le peuple chilien en lutte qui fait face à une répression d'une violence en même pas 48 heures. Quoi. On en est arrivé à tirer sur les gens et à redonner le pouvoir aux militaires dans Santiago. C'est quand même incroyable. Il y a quelque chose qui est mondial. Regardez bien, c'est un phénomène qu'il faut regarder les yeux ouverts. Il y a des révolutions citoyennes qui éclatent un peu partout dans le monde. Au Liban, pour une affaire d'accès aux réseaux de sociaux. En Algérie, c'est la question démocratique. Au Chili, c'était le ticket de métro, etc., etc. On est là, on soutient, on est en communion avec eux.
Propos recueillis ce soir devant l'ambassade du Chili de Jean-Luc Mélenchon par Aurélia Valarié, service reportage d'RTL. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé il y a quelques minutes qu'il renonçait à tenter de former un gouvernement, laissant ainsi le chemin bien dégagé à son grand rival, le centriste Benny Gantz. Mayotte attend le président de la République, Emmanuel Macron, qui se rend demain dans ce département d'outre-mer où l'on recense, William Galibert, une immigration clandestine galopante.
Oui, et plus qu'un débat sur l'immigration comme on le connaît en métropole, ici la population attend des actes. 75 000 clandestins, c'est l'estimation des autorités. 75 000 clandestins pour 300 000 habitants et des dizaines de migrants qui arrivent chaque jour depuis les Comores, avec pour conséquence une démographie explosive. Ce sont les mots d'un ministre du gouvernement. Ici, on vous explique qu'avec cette immigration illégale, toutes les préoccupations sont multipliées par 10, par 20, par 30. Les classes surchargées, les mineurs non accompagnés, la délinquance, le système de santé saturé, un ras-le-bol qui s'exprime et qu'Emmanuel Macron va devoir entendre dès son arrivée. Demain, il va d'abord chercher à montrer les muscles. On le verra en pleine mer avec la police aux frontières pour défendre son bilan. 22 000 reconduites de clandestins depuis le début de l'année. Du vent, répond ce soir un collectif de citoyens de Mayotte. Le président, disent-ils, nous parle de reconduite. Nous, on lui demande de bloquer la frontière.
William Galibert, service politique d'RTL, envoyé spécial à Mayotte avant la venue présidentielle. Le rugby, lendemain de défaite toujours aussi amère pour l'équipe de France, éliminée hier d'un tout petit point seulement en quart de finale avec un essai qui a beaucoup fait parler. Et justement, l'arbitre du match, le Sud-Africain Jaco Peyper, a agrémenté la polémique aujourd'hui du jour. Il a été pris en flagrant délit de mime du coup de coude fatal au bleu. On le voit en photo avec des supporters gallois. L'auteur du fameux coup de coude, Sébastien Vahamina, exclu du quart de finale, a annoncé sa retraite internationale aujourd'hui, le jour de ses 28 ans. Puis tu en sport, Paris 2024 a son logo, ça y est. Il a été dévoilé à 20h24 très précisément, c'est logique. Le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, sera notre invité aux côtés tout à l'heure de Quentin Vasselin du service des sports d'RTL en duplex du Grand Rex à Paris où a lieu la présentation ce soir. Auparavant, avant de parler météo, on va parler santé et le gouvernement qui a lancé officiellement sa campagne de vaccination contre la grippe avec un objectif, augmenter le taux de protection des populations à risque. Écoutez le professeur Olivier Lioncamp.
Les jeunes seniors, parce qu'ils n'estiment pas être une cible prioritaire de la grippe. Or, on sait que dès 65 ans, l'immunité baisse et qu'on peut avoir des formes extrêmement sévères, des hospitalisations, des passages en réanimation, voire des décès dès cet âge-là. Et puis, la population des femmes enceintes, hein, les 800 000 femmes enceintes chaque année, qui ne savent pas souvent ou qui ignorent qu'il est nécessaire de se vacciner, car la grippe est beaucoup plus sévère chez une femme enceinte. Il y a des conséquences de type fausse couche ou accouchement prématuré. Et donc, elles ont intérêt à se vacciner, quel que soit le stade de leur grossesse, car en plus, leur bébé bénéficie de la protection de la maman.
Le professeur Olivier Lioncamp au téléphone et aux côtés plutôt d'Odile Pouget, service santé d'RTL. Une cinquantaine d'associations de patients dénonçaient aujourd'hui les insuffisances notoires dans le cadre de la prise en charge de la douleur en France et leurs conséquences dramatiques pour les personnes concernées. Alors que plus de 12 millions de Français souffrent aujourd'hui de douleurs chroniques, 70% des personnes concernées ne bénéficient toujours pas d'un traitement approprié, estiment ces associations à l'occasion aujourd'hui de la Journée mondiale de la lutte contre la douleur. Et enfin, cette mise en garde aujourd'hui en matière de santé publique pour les téléphones portables qui sont portés souvent près du corps et qui émettraient visiblement trop d'ondes, selon une étude en tout cas de la très sérieuse agence l'ANSES, l'agence sanitaire, qui précise que certains téléphones portables mis en vente avant 2016 doivent être retirés aujourd'hui de la circulation ou au moins mis à jour car ils émettent trop d'ondes et dépassent les normes les plus récentes quand ils sont portés notamment dans la poche d'une veste ou d'un pantalon. Allez, le temps est le début d'un épisode malheureusement méditerranéen, ce qui veut dire forte pluie et orage, avec d'ores et déjà trois départements qui ont été placés en vigilance orange, comme l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées. On va faire un point pour demain, les prochaines 48 heures avec vous. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir à tous. La situation météo va fortement se dégrader à partir de demain matin dans le sud avec une dépression qui s'est creusée sur les Baléares et qui va engendrer d'ici mercredi soir des remontées instables de Méditerranée. C'est un épisode de méditerranéen qui va débuter demain matin dans un premier temps sur le Roussillon. On attend des pluies soutenues, des cumuls importants et un risque d'orage peu mobile, surtout dans la nuit de mardi à mercredi sur le Roussillon. Ce temps gris et pluvieux gagnera du terrain demain après-midi vers la Loire, mais les pluies seront plus faibles, alors que sur la moitié nord, la situation météo sera nettement plus calme, beaucoup d'humidité, donc pas mal de grisaille demain matin, et cette grisaille pourrait localement persister toute la journée. On devrait quand même revoir un ciel un petit peu plus bleu du côté de la Manche et sur le nord-ouest du pays dans le courant de l'après-midi, avec des températures comprises entre 4 et 18 degrés demain matin, 4 à Cherbourg, 8 à Biarritz, 18 degrés à Nice et de 12 à 29 dans l'après-midi, 12 degrés seulement sous la pluie à Toulouse, 14 à Paris, 15 à La Rochelle, 20 degrés à Nîmes et 29 à Ajaccio.
Merci Patricia Charbonnier. Dans un instant, place au champion, Tony Estanguet, médaillé d'or par 3 fois aux Jeux Olympiques et nouveau patron, vous le savez, grand patron du comité d'organisation des Jeux Olympiques, sera notre invité dans moins de 30 secondes. Il devrait être là, logiquement, on me fait signe, oui c'est bon. Donc on va le recevoir dans un instant, Tony Estanguet, puis après Magazine de l'Écho, on va parler de maison et de fitness, c'est sport hein, ce soir, avant de recevoir Kev Adams qui lui, à partir de demain, va entamer son marathon des salles parisiennes où il a pu déjà se produire en 10 ans de carrière. À tout de suite.